ToraBox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un enseignement de Madame Vanessa Benzaken. Bonne écoute et bon limoud.
Les enjeux, ils sont très nombreux, on va les détailler, mais je les ai titrés puisqu'il fallait condenser, alors j'ai condensé. Il nous dit, dans ce monde-ci, il y a dans ce monde-ci et sous un prisme spirituel, les deux vont aller ensemble, vous verrez bien évidemment, puisque Istakel Beoraita Ubara Alma, Kadosh Baruch Hu a pris la Torah, ça a été le plan du monde, donc ce qui est vrai pour la Torah est vrai pour le monde, tout se retrouvera. Il nous dit, dans ce monde-ci, la discipline procure à l'enfant sécurisation, stabilité, équilibre psychologique et maîtrise de soi. Rien que ça. Et on va voir en détail. Sous un prisme spirituel maintenant. Parce que la psychologie, elle n'étudie pas forcément. Ça ne l'intéresse pas. Donc, méfiez-vous quand vous avez des chitotes qui arrivent. Rappelez-vous bien qu'eux ne prennent pas en compte le pan spirituel. Eux, c'est juste arkan ve arshav. Maintenant. Est-ce que c'est efficace maintenant? Aval, nous, ça ne suffit pas. On est plus exigeant. On a plus fine bouche. Pour nous, il ne faut pas juste une méthode qui soit efficace kan ve arshav. Il faut que ce soit une méthode qui soit conforme également à des objectifs de long terme et de même très long terme. J'essaye d'interpeller ici le sens critique pour ne pas tout avaler. Et à l'image du maître Rav Yakovson. Et donc, sous un prisme spirituel, peut-être le plus important, la discipline, c'est la première préparation pour accueillir et acquérir la Yirat Shamayim. Sans discipline, l'enfant y part avec des béquilles pour acquérir la Yirat Shamayim. Nous, on pensait que c'est un problème purement spirituel. Mais en fait, il s'agit d'un problème au départ éducatif. On va voir beaucoup plus en détail Be'ezrat Hashem. Le Rav n'hésite pas à affirmer, celui qui n'a pas été élevé dans une atmosphère où il y avait une autorité, on parle d'une autorité saine et bienveillante, pas de la dictature, bien évidemment, où il y a des règles, cet individu n'a pas reçu d'éducation à la crainte du ciel. Il dit, celui qui ne s'est pas habitué depuis la tendre enfance à se plier à des règles qui émanent d'une autorité, une autorité qui lui est supérieure, s'il ne s'est pas habitué à cette norme de vie, oui, il ne peut pas prétendre à l'intériorisation d'une soumission véritable envers Dieu. C'est très dur ce qu'on est en train de dire. C'est les premiers constats. Le passage chez les parents, nous dit le Rav, c'est supposé être une préparation à l'acquisition de la Yirat Shamayim, ni plus ni moins. L'enfant n'est pas bar da'at. Jusqu'à environ bar mitzvah, il n'est pas bar da'at. Que ça veut dire qu'il n'est pas bar da'at? C'est le lashon des chachamim. C'est-à-dire qu'il n'a pas, si je veux transcrire en langage moderne, il n'a pas de perception abstraite des choses. Il vit les événements, il les ressent, il sait pas, il sait rien, il vit, il les ressent tous les événements. Donc il n'a pas la langue pour formuler ce qu'il sent, pas toujours, et il n'a pas la capacité de conceptualiser, d'abstraire des pensées. Donc Akadosh Baruch Hu, dans ses premières années, il n'a pas les kelim pour appréhender une réalité qui lui est totalement abstraite. Qui sont ses premiers netzigim? Qui sont ses premiers repères pour se faire une certaine image de Akadosh Baruch Hu? Ses parents. Donc son passage chez ses parents, en réalité, ça va être la première préparation pour acquérir des mécanismes, des structures mentales, une préparation nafshit pour accueillir plus tard ce qui s'appelle savoir se soumettre à une autorité supérieure qui est Dieu. Maintenant, on a posé tous les enjeux au niveau déjà de Ben Adam en tant qu'être humain tout court et en tant que Eved Hashem. On va maintenant un petit peu s'intéresser rapidement aux arguments qui ont été proposés par la psychologie qui tendaient à vouloir éradiquer la notion de discipline et d'autorité. Et on va essayer d'expliquer, vous verrez, donc à quel point ça ne se vérifie pas dans la réalité. Il nous dit, eux, ils présentent les faits comme ça. Ils disent, la discipline, elle nuit à la joie de vivre de l'enfant. Medake et ayelet. La discipline, elle, crée des problèmes de choser bitachon, des problèmes de manque d'assurance. La discipline, elle entrave l'épanouissement des potentiels chez l'enfant, des grands mots, des grandes choses. Si c'est ça, mais c'est terrible, il faut enlever toute forme de discipline, toute forme d'autorité. Et le Rav nous dit, ce qui est le brio avec lequel a travaillé la psychologie, c'est que non seulement ces argumentations sont fausses, Mais la vérification sur le terrain montre que c'est précisément l'inverse qui est vrai. C'est-à-dire, c'est très fort. Faire une erreur, on peut faire une erreur. Mais faire une erreur qui est précisément l'inverse, c'est incroyable. On va essayer d'expliquer maintenant pourquoi. On va le prouver, bien sûr. Il dit, la réalité est tout autre. Les enfants qui ont grandi dans une atmosphère où il y a une autorité et des règles, c'est justement ces enfants-là qui ne manquent pas d'assurance. Ces enfants-là qui ont présentent moins de problèmes de tension psychologique et d'instabilité émotionnelle, ce que j'appellerais les humeurs, hein, dans notre langage à nous. Et ils n'ont aucune difficulté à exploiter leur potentiel. Donc c'est tout à fait le contraire. Alors il nous dit les conclusions qui ont été obtenues ou fabriquées par la science psychologique moderne, elles représentent précisément l'inverse. Il dit il n'y a qu'à voir les résultats sur le terrain de la merveilleuse éducation permissive et débridée de notre société contemporaine qui a vu se décupler les problèmes de Khoser Bitachon. Qui n'a pas aujourd'hui Khoser Bitachon, manque d'assurance, c'est le lot quotidien de presque tout le monde, et d'instabilité émotionnelle, les humeurs, je pense que beaucoup sont familiarisés avec ça, moi en tête, oui. Donc ça, c'était déjà pour mettre un bémol sur les grandes argumentations. On va expliquer beaucoup plus en détail. La discipline, il nous explique le Rav, dans les premières années de l'enfant, elle va être une sorte de paravent à ce qu'il appelle les premières peurs fondamentales. C'est un petit peu technique, mais je vais essayer de le rendre facile. Il nous dit que chez tout individu, quand on est enfant, il y a des peurs besisiot, ce qu'il appelle, pachadim besisiim, des peurs fondamentales qui sont liées au statut même de l'enfant. Pourquoi ? L'enfant, il est petit et le monde est grand. L'enfant, il comprend rien et tout va vite. Il ne sait pas encore parler, alors que tout le monde communique par la parole. Il ne sait pas encore marcher, alors que tout le monde marche et court. Par son propre état, il est diminué. Alors, ce n'est pas grave du tout. Tous les enfants, ils passent ça. Mais ça commence à instaurer à l'intérieur de lui-même ce qu'il appelle « pechadim besisiim », des peurs fondamentales. D'accord ? Alors, vous pourrez poser la question, mais comment l'enfant, Béhémet, si on regarde comme ça dans les yeux d'un enfant, comment l'enfant, il fait pour se tenir bon malgré toutes ses difficultés et ses entre guillemets limitations? Il dit parce que Akadosh Baruch Hu, il a créé l'enfant avec un esprit saint. Cet esprit saint, c'est quoi? C'est que premièrement, l'enfant se focalise naturellement sur ce qu'il arrive à faire et pas sur ce qu'il n'arrive pas à faire. Premier grand enseignement pour la Avodah d'Amidot pour nous. Deuxième chose, l'enfant, de façon naturelle, ne se compare jamais aux autres. Deuxième enseignement très grand pour la Avodat Hashem, pour nous. Et donc, il tient bon, malgré qu'il doit fournir beaucoup d'efforts. Et on ne peut pas imaginer le nombre d'efforts qu'un enfant doit fournir pour monter des escaliers. Nous, proportionnellement, la marche, elle est comme ça. Mais comprenez que pour un enfant qui a 2 ans ou 3 ans, la marche, c'est comme si nous montions une marche comme celle-là. On ne peut même pas imaginer ce que c'est que les efforts que doit déployer l'enfant. Si ce n'était pas Bechesed Hashem, il ne pourrait pas se lever devant de tellement de défis. Outre le fait que HaKadosh Baruch Hu, il lui a donné une bonne nature, une nature saine pour savoir être mitmoded, pour savoir surmonter ces difficultés-là, il y a un autre remède, un autre paravent qui aide l'enfant à surmonter ses premières peurs. Et c'est quoi? C'est la perception de l'enfant qu'il a deux parents forts, grands, forcément plus grands que lui, même s'ils ne sont pas grands, d'accord, qui l'aiment et qui veulent le protéger. Donc ici, vous avez amour et toute puissance. Entre guillemets, avinu malkenu, hein. À la fois ils sont puissants, puisque pourquoi? Ils sont grands, ils ont l'air de tout comprendre. Sachez que pour les enfants, nous sommes la source suprême d'intelligence, jusqu'à un certain point où ils commencent à faire le tri. C'est pour rien. Et ça, ils sont effectivement, ils nous voient mamash comme le degem, le dogma, l'exemple. Et donc, quand ils perçoivent que leurs parents sont forts, automatiquement, ça apaise complètement tout ce qui s'appelle apachadim abssissim, ces peurs existentielles, ces peurs de départ, de yesodiot, à la base. Ça neutralise totalement. Alors, mais qu'est-ce que c'est que des parents forts, vous allez me dire? Parents forts, forts, quoi? Forts? Le date, moi je ne suis pas forte. Fort comment? Alors, on va essayer d'expliquer. Parents forts ne veut absolument pas dire fort physiquement, vous l'avez compris. Parent fort veut dire pour l'enfant parent stable. Nous allons détailler plus avant. C'est une première ouverture. Et il nous dit, pour l'enfant, c'est un dommage considérable de grandir avec la sensation c'est lui qui fait la pluie et le beau temps à la maison. Et maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi. C'est pas juste parce qu'on en fait un petit gâté, mais il est tellement mignon. C'est pas juste ça. C'est parce que pour lui, à Pachadim, ces peurs-là, elles s'amplifient. Elles prennent de l'ampleur. Qui c'est qui va me protéger si c'est moi le patron ici? J'ai qu'à monter la sirène un peu. D'accord, ils disent non, Stam, pour la forme. Je monte la sirène 5 minutes, j'obtiens ce que je veux. Ou je fais des petits sourires. Ça dépend, il y en a qui prennent par le... assez tov et sourmera, ça dépend. Un petit sourire et l'affaire est dans la poche. Le parent, il a l'impression parfois qu'il ne veut pas... Il ne veut pas s'entêter, il préfère faire plaisir à son enfant. Allez, il y a tellement de difficultés dans la vie, fais-lui plaisir. Mais dans un cas où le parent avait dit non au départ, s'il se rétracte, qu'est-ce qu'enregistre l'enfant? C'est moi le patron ici. Et il dit, vezé avel. C'est mamash un dommage considérable pour l'enfant que de grandir avec cette sensation qu'il est le patron. Parce que même si sur le moment il est content, il a eu le chocolat, il a eu la petite voiture, à Arshav, il est très content, mais c'est exactement, si vous voulez comparer la chose, comme un soldat qui a gagné la bataille mais qui a perdu la guerre. Pourquoi? Parce que la perte, elle est tellement importante pour lui, au niveau de la sécurisation. Miyagenalai, qui c'est qui me protège? L'enfant ne dira pas ces choses. L'enfant ne pense même pas ces choses. Il les vit. Il ne saura même pas les formuler. Donc c'est pour ça qu'on en arrive à une première règle. Si tant est qu'on peut donner quelques règles, vous verrez qu'il y a très peu de règles avec Rav Yaakovson. Rav Yaakovson invite à réfléchir. Il invite à penser et à s'interpeller.
Au début du cours, vous avez dit que la discipline, ce n'était pas une relation de supériorité.
Et là, vous verrez. Oui, non, quand l'enfant il a la sensation d'être le patron. Nous, vous allez voir, c'est un développement. On va voir. Le but n'est pas d'être le patron. D'accord? Nous, on ne veut pas être le patron. Nous, on veut habituer l'enfant à vivre dans une vie où il y a des normes. Et cette norme, c'est qu'il y a une autorité. C'est normal de s'y plier. Pas par la force, de bon gré. Voilà ce qu'il faut obtenir, ce qui fait l'objet de pas mal de pages, évidemment. Quand je dis qu'il est le patron, c'est une façon de dire, pour dire que quand l'enfant, il obtient tout ce qu'il veut en définitive, il ne le dira pas, mais il ressent, il grandit avec la sensation que c'est lui qui fait la pluie et le beau temps à la maison. Et pour l'enfant, c'est un préjudice grave. C'est ça qu'on est en train d'expliquer. D'accord? Donc, la première règle qu'on va énoncer, c'est celle du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. D'ailleurs, je ne saurais que trop vous conseiller, je l'ai apporté avec moi, la Rabbanit Zerbib que vous devez connaître de Bnei Brak. Elle a traduit ce livre extraordinaire du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, que le Rav Yaakovson puise énormément d'enseignements, qui est un très grand éducateur aussi, de 1850 à peu près, orthodoxie allemande. Extraordinaire, pas chaud, d'une actualité extraordinaire. Et donc cette règle qui nous donne le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est une Rav dans le cadre de la Mishma, dans le cadre de la discipline. Il nous dit, parents, souciez-vous qu'il y ait le minimum de règles chez vous. Comment ça, minimum de règles chez vous? On est dans le paragraphe Anachnou Beseif Farshav, on est dans le paragraphe sur la discipline. Vous me dites le minimum de règles, mais c'est permissif. Pas du tout, vous allez voir pourquoi. Le Rav Hirsch, dans sa presse, il dit, faites en sorte qu'il y ait le minimum de noms, le minimum de règles. Mais sur les règles et sur les noms, vous allez tenir ça avec une main de fer. On ne change pas d'avis. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Et si on s'est trompé? Alors retenez ce principe-là très important. Retenons ce principe. C'est qu'il est plus préjudiciable pour l'enfant de changer d'avis quand on a énoncé un nom, une décision, quitte à ce que ça soit injuste ponctuellement sur le moment, oui, que de commettre ponctuellement une injustice. Je ne nous invite pas à commettre des injustices, Khalila. Je nous dis à nous, tourne 7 fois la langue dans ta bouche avant de dire non. Parce qu'une fois que tu as dit non, tu as lancé la chose, il faut aller au bout. C'est pas parce que c'est ton devoir, c'est parce que tu aimes ton enfant. Donc tu veux lui faire du bien. Tu veux lui faire du bien, il faut qu'il grandisse avec la hargasha, avec la sensation qu'il a deux parents forts. Pour qu'il grandisse avec cette sensation, il faut que ses parents soient stables, cohérents. Si les parents échangent d'avis, s'ils disent non, puis après ils disent oui, l'enfant, il est content sur le moment, mais il n'est pas content en définitive. Si je pousse, j'extrapole le principe de façon extrapolée, on arrive au phénomène de la crise d'hystérie. Le Rav, il nous dit comme ça, que les crises distaient l'enfant. Je ne parle pas des petites crises qui pleurent un quart d'heure, ça chez tout le monde, ouais. Je parle de la crise d'hystérie en bonne et due forme. Yesh davar kaze, il y a une chose comme ça. La crise d'hystérie en bonne et due forme, il nous dit le Rav, pour 90% des cas, sont des cas de foyer où il y a une carence sévère de discipline. À four, à la four, à col la four, tout est à l'envers. Comment ça? Moi, j'aurais dit, selon le Higayon, en fonction de la logique, j'aurais dit, un enfant qui fait des crises d'hystérie chez lui, c'est parce que ses parents, il étouffe. Il y a trop de règles là-bas. Il y a trop, ils sont autoritaires, il étouffe, alors il n'en peut plus, il fait des crises d'hystérie. À four, à la four, exactement le contraire. L'enfant, il a, pour 90%, il dit 10%, ce sont des problèmes neurologiques. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier si ce n'est pas neurologique, parce que si c'est neurologique, on ne le traite pas de la même manière. Mais il dit 90%, les crises d'hystérie, c'est tout simplement des foyers où il y a une carence sévère de discipline. Qu'est-ce que dit l'enfant dans la crise d'hystérie? Rassurez-moi! Voilà ce qu'il dit. C'est un cri qui vient d'une détresse. L'enfant, il est en détresse. Pourquoi il est en détresse? Il a peur. Ce monde, il est effrayant. Effrayant. Et si moi, je fais la pluie et le beau temps ici, mais qui va me protéger? Et les crises d'hystérie, elles visent paradoxalement à faire sortir le parent, le faire sortir parent, qui réagisse enfin. Et parfois, ce qui est très, je m'excuse pour le bébé, ce qui est très paradoxal, c'est que les parents en général, comment ils réagissent à ça? Ils se disent on est trop dur, il faut qu'on soit plus gentil avec lui, il faut qu'on soit... Alors, être gentil, c'est sûr qu'il faut être gentil. Vous verrez que je suis la première à prôner ces choses-là. Mais être ferme quand il le faut. Ferme quand il le faut, ça veut dire ne pas devenir agressif. Parce que celui qui n'est pas ferme quand il le faut, il deviendra agressif. C'est clair, c'est pas doux, c'est vérifié sur le terrain. Alors donc... Crise d'hystérie, c'est vraiment, il tombe par terre, il devient bleu, c'est des choses sévères quand même. Certains arrivent à vomir même. Ouais, chez l'on est d'un.
Commence avec un scandale qui dégénère, quoi.
Ça commence avec un non, tout simplement. Laura avait dit, certains parents n'osent pas dire non à leurs enfants. Certains enfants frappent. Alors vous allez me dire... Les enfants de 2-3 ans, ils lèvent la main. C'est rien du tout, ça. C'est rien du tout. Ne paniquez pas sur ça. C'est-à-dire, il va apprendre. À écart de ne pas se mettre en colère sur ça. On ne tape pas, on retire la main et c'est tout. D'accord? Pas paniquer. Mais des enfants de 10 ans, je ne sais pas moi, qui lèvent la main. Là, il faut traiter plus avant. D'accord? L'enfant qui ne s'est pas habitué à entendre non, il trouvera comme un sacrilège qu'on lui dise non. Echemeizim, comment ils osent? C'est moi le patron. Comprenez l'idée? La crise d'hystérie, paradoxalement, est un cri de détresse de l'enfant qui demande désespérément « Prenez votre place et rassurez-moi donc. » En gros, c'est ça. D'accord? Si je condense. Donc, pour nous, une des premières points de repère, c'est qu'effectivement, dire le minimum de fois non, bien réfléchir avant de dire non. Pourquoi? Parce que des fois, on dit non comme ça à tort et à travers. On a la sensation qu'en disant non, on affirme notre autorité. C'est exactement le contraire. Privilégie les fois où tu dis oui. En disant oui, tu n'affaiblis pas la discipline. Loin de là. Privilégie les choses qui sont réellement importantes pour toi, parce que si tu y crois, ça passera chez l'enfant. Si tu n'es pas schlema, si tu n'es pas vraiment entier avec toi-même, l'enfant, il le sent. Yeshlo, il a un sonar, il a un radar, il sent quand tu n'es pas complètement schlema, il voit la brèche et il s'infiltre dans la brèche. C'est tamid, kacha. Toute maman, elle sait ça. Donc ça, c'est notre premier point de repère, le minimum de fois non, mais quand on a dit non, il faut être courageux et aller au bout. Et ne pas se sentir avec des sentiments de culpabilité et avoir même une kavana ani osa archavitra chesed. Je suis en train de faire avec toi, mon enfant, du chesed. Pourquoi? Je t'offre la sécurisation sur un plateau. C'est quand même, l'enjeu est énorme, énorme. Donc, on peut également renforcer la discipline avec le oui. Alors là, c'est beaucoup plus facile. Et vous verrez, c'est un truc tellement facile qu'on se demande comment c'est pas plus diffusé, certes savent. Comment on renforce la discipline avec le oui? Puisque des oui, normalement, on sera amené à en dire plus souvent. Le Rav, il nous dit, j'ai un petit truc. Ça fait partie des petits trucs. Qui est vérifié sur le terrain, extraordinaire. Exercez-vous, quand vous dites oui, à ne pas le dire immédiatement, mais à marquer un temps. Ça, c'est des petits patents qu'on donne. Hein. Il y a très peu de patents dans le cours du Rav Yekoson, mais il y en a comme ça, pauvre Echav, un ou deux. C'est-à-dire, en gros, si je vous le mime, l'histoire, c'est « Maman, je peux aller à la Guinée, au jardin, excusez-moi. » D'accord, Cette petite seconde, elle dit tellement de choses, vous pouvez même pas vous imaginer qu'est-ce qu'elle dit. Elle dit tellement de choses que l'enfant qui n'a pas appris la pédagogie, n'a pas appris l'éducation, il sent la différence et comment vous allez le voir. Alors que d'habitude, vous lui dites oui, il s'en va, il vous regarde même pas. Cette fois-ci, il va vous regarder, il va faire « Yesh ! Todaima !» Essayez, vous allez voir. Pourquoi c'est comme ça ? C'est très simple. Parce qu'en marquant un temps d'arrêt, j'ai marqué que je suis l'autorité. Que je peux aussi dire non. Si je dis oui à tort et à travers, ça n'a plus de valeur. Ou si je dis oui par dépit, alors là c'est encore pire. C'est-à-dire que c'est toi en vérité qui m'a commandé de dire oui. Vous savez le oui quand on en a assez. Vous connaissez ce oui là, oui ? Oui, d'accord. Mamma shlo beshum panim vaofen, en aucune manière. En aucune, a fait ce que tu veux. Mais non, pas fait ce que tu veux. Ania capitaine, c'est moi le capitaine. Je ne suis pas le capitaine pour te dominer, Khalila. Je suis le capitaine pour te sécuriser. Toute la notion de mishma, de discipline, au vu, sur un regard de Torah, ce n'est que du chesed. Que du chesed. Et puis les plaignes, c'est quelque chose de très impressionnant parce que nous, on dit, mais non, c'est le côté de la gvoura. Mais vous allez voir que finalement, en fait, c'est des choses qui vont requérir du parent des efforts. Alors que nous, on croyait que c'était pour nous donner des cadeaux, cette histoire. Mais à la fin, on aura des cadeaux. Mais l'objectif premier, c'est pour servir les objectifs de l'enfant et les intérêts de l'enfant. Et on sera que plus content de voir la construction magnifique qu'on aura fait grâce à ça. Bezrat Hashem. Donc, on peut renforcer par le non, quand les non sont minimales et quand ils sont tenus jusqu'au bout. Et on peut renforcer par le oui en marquant une toute petite pause pour, de façon non dite, de façon complètement implicite, rappeler que on peut aussi dire non. D'ailleurs, nous dit le Rav Dessler, il nous citait ça, n'a jamais dit oui celui qui ne sait pas dire non. Vous savez ça? C'est une réflexion personnelle pour chacune. Celui qui ne sait pas dire non, il n'a jamais dit oui. Puisque c'est oui, c'est des oui forcés, c'est j'ose pas, je ne veux pas faire de la peine, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, l'onaïm, j'ai honte, j'ose pas. Le Rav Jacobson, il parle de ça sur le mécor du Rav Dessler en disant que pour quelqu'un qui a une difficulté comme celle-là, c'est d'afka une mitzvah pour lui de s'entraîner à dire non. Pas pour pas faire plaisir. Non, les shem chesed, pour construire les midot. Parce que dire oui, dire oui, dire oui, dire oui, en se sentant profiter, en se sentant qu'on profite de nous, il disait rak mashrit et amidot. Ça ne fait qu'abîmer les midot et ça ne les construit pas. Un travail personnel pour chacune, tout un chacune, si elle en a besoin. Donc, notre... Oui, oui. Pourquoi ? Parce que finalement, dire trop de non, bah, c'est se mettre en problème. Comment tu vas tenir ? Il faut avoir les crédits en banque derrière. Ça veut dire pas trop de non, c'est très... Quand il y a trop de non, alors c'est la raison pour laquelle chacune, elle est appelée à réfléchir dans son foyer, avec sa personnalité, avec ses enfants, et ce n'est pas des recettes magiques. D'accord ?
C'est propre à,
propre à chacune. Absolument. Absolument. Chacune, elle doit s'interpeller. Elle va sentir peut-être qu'il y a trop de noms, peut-être qu'il y a trop de règles. Peut-être c'est pour ça que la discipline ne marche pas. C'est surabondance et étouffant. Ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que trop de noms, c'est ce qui va saboter la discipline. Puisque comment tu vas tenir, toi ? Il faut avoir les crédits derrière. Si tu sais maintenant que le nom, il t'engage jusqu'au bout de la route, tu vas réfléchir deux fois avant de dire non. Vous comprenez l'idée ? Non, on va pas parler de ça maintenant. Il y a deux raisons. D'abord, c'est un océan. Il y a tellement de choses, c'est un océan. On va peut-être aborder Bérémazim en comme ça, allusif. Mais, et d'autre part, le Rav, dans le cours sur la discipline, ne donne pas de points de repère spécifiques, de règles souhaitables dans la maison. Il donne des kavim klaliim, c'est-à-dire des trajectoires générales. C'est bien que dans une maison, il y ait du céder. Bon, on sait ça. C'est bien que dans une maison, les enfants participent. On sait ça. D'accord ? Ce sont des choses. Il ne va pas maintenant donner des points de détail très spécifiques. D'accord ? Mais vous allez voir que déjà, l'éclairage pour nous parents, de faire le triangle, qu'est-ce qui est de la discipline, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment nous, on doit avoir la tête configurée pour voir les choses conformément, ça va déjà nous faire avancer déjà un grand, grand pas. Bezrat Hashem. Alors bien sûr, le Rav il a dit Anachnou bne Adam, nous sommes des bne Adam, nous sommes des êtres humains, on peut être Nirchal Povesham, on peut se tromper une fois ou deux. Mais il ne faut pas que ça devienne un système. Regardez, il y a des cas par exemple où il vous dit je peux faire ça, non, mais tu m'avais dit que, ah oui, effectivement, oui, ça c'est Besséder. Je parle de dire oui après qu'il a fait la sirène, oui après qu'il a fait pression, oui après qu'il a insisté. Dafka, quand il a fait pression, ce qu'il faut dire tout le contraire. Puisque tu insistes comme ça, puisque tu... On dit, Laura, t'as mis à l'aile, tu miaules, ouais. Puisque tu fais tout ça, eh bien, ça score plus. Odioternum. Parce qu'il ne faut pas apprendre à l'enfant quand, grinçant des dents, on obtient quelque chose. Vous allez voir après, il y a encore d'autres implications, ça, on n'est qu'au début. Donc, quelle est la formulation pour nous de la discipline, Tachles? Comment ça se définit pour nous? Parce que la discipline, ça veut dire pour... On est combien de participantes? 30, je ne sais pas. 30 définitions! Si je fais un sondage, il y aura 30 définitions. Et la mienne, 31. Allez. Et le Ravi nous donne un point de repère excellent. Il nous dit, la discipline va prendre la forme de... Tkifut echletit verigua ikvit. Ici, vous avez la formulation où il y a tout dedans. Tkifut, ça veut dire fermeté. Echletit, c'est assuré. Regua, c'est calme. Ça, c'est le point le plus difficile pour nous, gente féminine. Veikvit, c'est constant, cohérent. Ici, vous avez tout le thème, si vous avez tout. C'est-à-dire que presque, on pourrait faire le titre comme ça, et avec là, vous puisez toutes les informations de ce titre-là. Qu'est-ce que ça veut dire, cette chose-là? Ça veut dire qu'il s'agit d'une fermeté qui est protectrice et non hostile. Et c'est un art, c'est un art. Parce que quand on n'est pas très ferme de nature, la seule fois où on l'est, c'est quand on est agressif. Être agressif, c'est pas être ferme. Vous comprenez la différence?
Exactement.
Ah, mais je le sais très bien sur moi. Je suis un laboratoire de tests pour vous, hein, votre service. Donc je peux vous dire à quel point je connais ces choses. Je suis plutôt émotionnelle, tendre, gentille comme ça. Ah, le cours sur la discipline m'a révolutionné ma vie. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr que c'est... Mais vous avez oublié qu'on a quelqu'un au-dessus de nous. Tout est rattrapable. Tout est rattrapable. Et ce qui ne l'a pas été, Gamze Ayaretson Hashem. L'Etova. Vous croyez que j'ai pris le chantier comment, moi? Je l'ai pris tout neuf. Mon grand avait 10 ans quand j'ai découvert toutes ces choses-là. Et j'en avais beaucoup derrière, Baruch Hashem. Et j'en ai, ce Shiyurim. Donc, c'est ce qui est important, ce n'est pas de regarder en arrière. Il nous l'a dit d'ailleurs, le Rav Jacobson. Ce que je dis est souvent très, très choquant. Parce qu'il dit des grandes vérités qui sont... Il dit... La démarche de travail dans le cadre de ce cours du Rav Jacobson, il nous dit comme ça, il dit « L'ole istakel achora bezaam et la kadima betikva ». Ce sont ces mots de ce grand maître. Ça veut dire « Ne regarde pas dans le passé avec colère, même sur toi-même ». Tu ne dois pas être en colère sur toi-même. Tu dois regretter ce qu'il y a à regretter et prendre un nouveau départ. Nouvelle page. C'est ça le juif. Nous ne sommes pas catholiques, Baruch Hashem. On a tourné dans la culpabilité toute la vie. Baruch Hashem. Donc le juif, il fait tchouva. Fait harata, il regrette, il prend une nouvelle page et il avance. Kadima betikva, il regarde en avant avec espoir. C'est le moteur de travail de toute la démarche. Donc ici, vous avez donc dans Regua, vous avez le fait que ce n'est pas un rapport de force personnelle. C'est calme, donc il n'y a pas un rapport de force personnelle. C'est une fermeté protectrice, comme il dit le Rav, ani chazaka avurcha. Anilo chazaka negdecha, pour répondre à la question sur le patron, etc. Je suis forte pour toi. Je ne suis pas forte contre toi. En aucun cas. En aucune manière. D'accord? Vous comprenez la différence. Et ikvit, c'est quoi? Constante, régulière. Mais c'est que mes avis, mes décisions sont cohérentes. Elles continuent, une trajectoire. Elles ne changent pas. Tout le temps. Donc ça, c'est les premiers points de repère que nous avons. Et... Il nous dit le Rav, céder systématiquement aux caprices de l'enfant. Alors, ne prenez pas un cas isolé, ça peut arriver des cas isolés. Nous ne sommes pas des êtres humains, ce n'est pas des mathématiques. Mais, si nous sommes des êtres humains, et ce ne sont pas des mathématiques. Mais céder systématiquement aux caprices de l'enfant, il nous dit, en quoi c'est un dommage? On tombe dans le travers qui s'appelle la gâterie. La gâterie, ça donne en résultante un individu asocial. Il ne sait pas composer avec les autres. Vous l'envoyez au GAN, il ne compose pas. Alors, ne paniquez pas si vous voyez que l'enfant, il se dispute avec les autres, il ne veut pas prêter son jouet, c'est d'air. Hein. On parle de cas où vraiment, ils ont du mal. Ils n'arrivent pas à composer avec les autres parce que tout leur est dû. Tout leur est dû. Donc, ils ne sont pas habitués à concéder, ils ne sont pas habitués à donner, ils ne sont pas habitués à partager. C'est la gâterie, ok? Une autre conséquence de céder systématiquement aux caprices, c'est l'insatisfaction chronique. L'enfant n'est jamais satisfait. Parce qu'il a toujours l'impression qu'il peut en avoir encore et encore et encore. Et puis ça ne le rassasie pas parce que finalement tout ce montage, lui, est inconfortable. C'est ce qu'il faut se rappeler. L'enfant, on croit que c'est confortable pour lui. Il obtient tout ce qu'il veut, pas du tout. Il n'est pas à son aise dans un système comme ça, comme je vous ai expliqué déjà au départ, que la sécurisation, elle vient de ce que le parent, il est ferme et cohérent et fort. Et manque d'assurance, forcément, puisque ces modèles qui sont au-dessus de lui, il les mène par le bout du nez, donc il n'a pas d'assurance personnelle lui-même. Et ça accentue, on a dit, donc il est craintif, les peurs fondamentales.
Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox, www.torah-box.com, trois enseignements de judaïsme, par des rabbanim différents, sur d'autres sujets variés, et sous toutes les formes, audio, vidéo, ou sous forme d'article. À bientôt.